La revue francefineart.com présente. Pierre Cambon, vous êtes conservateur en chef des collections Corée, Pakistan et Afghanistan du Musée national des arts asiatiques Guimet et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition des images et des hommes Banyan 20 ans après, présentée au premier étage du musée dans la salle sino-tibétaine spécialement aménagée pour l'occasion. Alors articulée en deux temporalités, l'une par le regard contemporain du photographe plasticien Pascal Couvert et l'autre par des œuvres archéologiques où Joseph Iria Akin, archéologue et conservateur au musée Guimet, en poursuivant des travaux commencés en 1922 par André Godard, ils y feront leur première fouille en 1924. L'exposition est donc un hommage à un patrimoine disparu où il y a 20 ans, le 11 mars 2001, les talibans qui avaient pris le pouvoir en Afghanistan détruisent deux des grands bouddhas monumentaux sculptés dans la roche des hautes falaises de Banyan. Alors si aujourd'hui de nombreux sites sont menacés, ont été détruits parce qu'ils représentent des idées différentes à celles des destructeurs, quelle est l'histoire de ces sculptures ou leur réalisation estimée à entre 300 et 700 après Jésus-Christ, située sur la route de la soie reliant, je le rappelle, la Chine et l'Inde au monde occidental, quelle est l'importance de ce centre religieux comprenant donc plusieurs monastères bouddhiques?
Écoutez, en fait, Bamiyan est au cœur de l'île de Kouj, sur la route qui va de l'Inde du Nord-Ouest vers le Xinjiang, l'Asie centrale et la Chine, donc c'est sur la route des pèlerinages en fait, en partance de l'Inde, ou en venant de Chine. L'un des témoignages les plus précis, les plus anciens d'ailleurs concernant Bamiyan, c'est celui de Xuanzang, un pèlerin chinois qui vient en Inde pour retrouver les textes sacrés. Donc il passe à Bamiyan, début du 7e siècle. En fait, le site, l'apogée du site, est schématiquement situé vers le 6e, 8e siècle. Les débuts restent plus hypothétiques, même si M. Tarzi, donc, qui a fouillé sur place en 2002, et même avant, suggère une phase même très ancienne de la période Kushan, 1er, 3e siècle après Jésus-Christ, en s'appuyant d'ailleurs sur les fouilles de Joseph Akin. Les deux bouddhas en question ont été datés en 2009. Le plus petit, si je puis dire, 38 mètres de haut, serait la seconde partie du 6e siècle après Jésus-Christ, tandis que le plus grand, soit 55 mètres, est lui donné comme postérieur, fin 6e, début du 7e siècle. Donc le site est gigantesque en fait, parce que je veux dire, la vallée de Bamiyan, elle s'appuie sur les contreforts de l'Inde de Kouj. Le plus petit Bouddha, si je puis dire, est à l'est de la falaise, le plus grand à l'ouest. Il y avait une ville royale au pied. Il est même question, d'après Xuanzang, d'un parinirvana dans un des monastères au pied de la falaise. Donc, schématiquement, la chronologie donnée serait que le secteur du petit Bouddha est le plus ancien et c'est là qu'apparaissent les plus anciennes peinture aussi. Au-dessus du petit Bouddha, il y avait notamment une fresque dont on a une copie ici, faite par Jean Carl en 1935, au-dessus de la tête de la sculpture. Donc, un dieu solaire habillé à la Sogdienne, avec un mélange d'influences donc à la fois indienne, d'Asie centrale, voire même de Méditerranée. Et sur les flancs de la niche, en fait, il y avait la représentation des princes de la vallée, dont là aussi copie a été faite par Yeda Godard, la femme d'André Godard, avec qui Joseph Akin a travaillé lors de sa première mission en 1924. Sur la plus grande des deux niches, donc le Bouddha de 55 mètres, vous avez là aussi des peintures. Il y avait des peintures. Tout ça a été dynamité, donc il n'en reste plus rien. Ceci étant, c'est vrai que le site est tellement grandiose. Je veux dire que les Bouddhas quand on vous donne les dimensions, ça paraît très impressionnant, mais sur place, en fait, je veux dire, c'est la vallée elle-même, le cadre qui est impressionnant, en fait. La vallée est rouge, en plus, on est à 2500 mètres d'altitude, donc l'air est pur, les couleurs sont très violentes, en fait. Vous êtes pris par l'ambiance générale. Le site était déjà dégradé en son temps. En fait, la première mention qui en est donnée, c'est renvoie dans la littérature anglaise au XVIIIe siècle, Hyde qui compile les écrivains arabes, et les premiers à reconnaître le site, c'est Alexander Burns, un Anglais là encore, vers 1830, lors de son voyage sur Bokhara. Et par la suite, en 1830-1840, c'est Charles Masson qui reste un certain temps en Afghanistan en préparation plus ou moins de l'expédition britannique sur Kaboul. L'un et l'autre d'ailleurs publient à Londres une gravure de la falaise. Le site est important aussi parce qu'il est un point d'étape, si je puis dire, entre l'Iran, l'Inde, la Chine. Il est dans la mouvance de l'Iran sassanide dès le IVe siècle, avant que les invasions du Nord ne mettent à genoux l'Iran des Sassanides. Et donc on passe aux Huns blancs, les Kionites Eftalites, qui seront intégrés ensuite dans l'Empire des Turcs occidentaux au VIe siècle. Mais ce sont les statues les plus grandes connues de tout le monde bouddhique. Enfin, en Chine, les dimensions ne sont pas aussi impressionnantes. La tradition rupestre vient de l'Inde, c'est Ajanta, et après, via l'Afghanistan, irrigue l'Asie centrale, puis la Chine, voire la Corée, pour se perdre au Japon. Mais Bamiyan, c'est le summum, le sommet, si je puis dire. Après, les dimensions déclinent plus vous allez vers l'Est. Donc visiblement, le modèle a dû influencer la sculpture bouddhique en Asie du Nord-Est. Il y a eu pas mal de pèlerins chinois qui sont venus au 4e, au 5e. J'ai cité Xuan Zang au 7e. Vous en avez encore par la suite, même un Coréen, Ye Cho, qui viendra au 8e. Même une fois que l'Empire des Turcs occidentaux passe la main, si je puis dire, Bamiyan reste un foyer autonome. L'expansion islamique, en fait, se fait d'abord par le Seistan jusque dans le Sindh, en fait, c'est Multan, dès le 7e siècle. Elle se fait aussi sur le nord, la Bactriane, donc la prise de Balkh, puis le choc entre les armées chinoises et arabes en 751. Au 8e siècle, mais Bamiyan reste longtemps autonome et fait face avant finalement d'être balayé par une expédition au 9e siècle. Mais la zone ne sera islamisée en réel que avec l'avènement des Turcs Ghaznévides. Ghaznévides, c'est la ville de Ghazni au sud de Kaboul. Donc le site a duré longtemps en fait. Il est donc reconnu par la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan, donc créée à l'occasion de l'accord entre France et Afghanistan. Le site est reconnu en 1922 par Alfred Fouché, donc, qui pose les bases de l'accord entre les deux pays. Et Akin le rejoindra lors de sa première mission en Afghanistan en 1924. Et c'est d'ailleurs là le choc, parce que jusqu'alors, Joseph Akin est parti sur le bouddhisme, l'iconographie bouddhique. Sa thèse, il l'a fait pendant la Première Guerre mondiale. Il est luxembourgeois d'origine, naturalisé en 1912, et donc va être sur tous les fronts, de l'Ouest, de l'Est, même jusqu'en Ukraine. Donc, mais un temps blessé, il profite de sa convalescence pour finir sa thèse. Mais à l'époque, sa thèse, c'est l'iconographie du bouddhisme au Tibet. C'est la première mission en Afghanistan pour seconder Fouché qui va le voir changer du tout au tout, en fait. Il reste toujours sur la ligne bouddhique, mais c'est définitivement l'Afghanistan qui le fascine, où il va de facto être le directeur sur le terrain, même si officiellement c'est Fouché le responsable. Donc il sera à la fois directeur du musée Guimet et directeur sur le terrain de la délégation archéologique française en Afghanistan. Et à la thèse qu'avait suggéré Alfred Fouché, d'un art gréco-bouddhique, l'art dit du Gandhara, la région de Peshawar, donc actuel Pakistan, juste près de la Khyber Pass, suggère l'art irano-bouddhique, dont Bamiyan serait l'exemple par définition. Parce que je veux dire, il faut aussi vous remettre en tête que le Gandhara, tout le monde connaît depuis l'époque anglaise, et même avant, puisqu'il y a eu des officiers français à la cour de Ranjit Singh. L'Asie centrale voit toute une série de missions européennes, voire japonaises, entre 1900 et 1914. Mais je veux dire, le maillon qui manque, c'est l'Afghanistan, en fait. C'est à cause des accords de 1922 qui donnent l'exclusivité des fouilles à la France que le lien se fait. Et donc, d'où le fait que Joseph Akin joue Bamiyan comme un art irano-bouddhique qui fait le lien entre l'art gréco-bouddhique et l'art du Turkestan chinois, très iranisant, dont vous avez de superbes collections au musée de Berlin à Dahlem.
Et peut-être quand même pour dire un mot sur l'exposition comme elle est présentée, je le rappelle, dans le cadre du 20e anniversaire de la destruction de deux des Bouddhas monumentaux, mais aussi de la disparition de Joseph et Ria Akin, décédés il y a bientôt 80 ans. Alors, par les différents relevés, objets archéologiques prélevés sur la falaise afghane, comment justement les photographies de Pascal Couvert, présentées dans l'exposition réalisée après la destruction de 2001, montrent-elles justement l'ampleur du site, mais aussi du désastre, et de nombreux sites étant toujours menacés, comment justement les musées, les institutions, les archéologues, les conservateurs, donc, peuvent-ils contribuer à la sauvegarde de ces sites, à alerter le public sur l'importance de ces sites, sur l'histoire des peuples, des cultures qui les ont donc construits.
La présentation est un constat d'état, si je puis dire. On est en 2021. Les événements ont eu lieu en 2001. À ma connaissance, même l'UNESCO n'a pas donné de réponse. Je veux dire, mais comme je vous le disais précédemment, en fait, l'intérêt du site Bamiyan, en l'occurrence, était qu'il pouvait être revendiqué par l'Ouest, les Bouddhas comme apogée de l'art de Gandhara, dit gréco-bouddhique, mais aussi par l'Ouest, les pèlerins chinois, coréens, décrivent le site. Par définition, le vandalisme, les destructions ne sont pas une nouveauté. La vallée a été prise par les armées mongoles en 1221. Un des fils de Genghis Khan a été tué dans une embuscade. Genghis Khan a décidé d'exterminer tous les êtres vivants de la vallée. Lui, il n'a pas touché au Bouddha. Donc la question se pose de savoir comment on voit les choses, en fait. Par ailleurs, c'est vrai que les événements de 2001 sont dans un contexte politique précis, en fait. Le mouvement taliban, qui n'était reconnu quasiment par personne, sauf par quelques pays très limités, avait inauguré au mois d'août le musée de Kaboul en jouant la carte culturelle. Mais devant des sanctions américaines à l'ONU, vous vous retrouvez dans un autre contexte, à savoir mars 2001. Donc tout ça est crypté et codé, en fait. C'est aussi un chantage médiatique, en fait, parce que, on a joué l'image. Et ça a marché, en fait. C'est pour ça que c'est curieux à tout point de vue. À mon sens, le projet est plutôt donné à montrer, donné à réfléchir. Encore une fois, l'iconoclasme, c'est d'abord un mouvement byzantin. Ce n'est pas un mouvement musulman. En France, on est mal placé pour donner des leçons de patrimoine avec la Révolution française qui a quand même ravagé toutes les cathédrales gothiques. Par ailleurs, c'est vrai aussi que le bouddhisme promeut le détachement, le renoncement au monde. Donc tout ça pourrait être quand même quelques éléments à prendre en compte. La vision 2001 était définitivement politique, à mon sens. Il n'était pas question, même si l'UNESCO a cherché en son temps à discuter sur ce terrain-là, à mon sens, ce n'était pas vraiment le sujet. Le sujet était définitivement politique, révolution pure et dure, et du passé, on fait table rase. C'est la théorie de l'homme nouveau qu'on a déjà vu chanter sous d'autres cieux et par différents régimes. Donc, je veux dire, à mon sens, c'est après qu'on prenne goût à la chose et qu'on joue les instructions pour le plaisir, parce que, je veux dire, visiblement, ça ému, on peut comprendre. Je veux dire, je pense que garder, je veux dire, à la fois une certaine distance, tout en soulignant que le patrimoine appartient à tous, en fait. C'est plus une question d'identité. Là, dans ce cas de figure-là, je veux dire, l'identité était niée par plaisir. En fait, encore une fois, les destructions, c'est quand même du travail de professionnel. Enfin, je veux dire, le petit Bouddha, vous avez encore vaguement la forme qui peut se deviner, mais le grand Bouddha, c'est fait de façon ultra efficace. C'est sans retouche, en fait. Je pense que il faut autant que faire se peut préserver ou reconstruire. C'est Varsovie a quand même été complètement détruite, elle a été reconstruite. En Yougoslavie, il y a quand même eu quelques dégâts. Là aussi, on a reconstruit. Le problème n'est pas de reconstruire les Bouddhas de Bamiyan. À mon sens, l'avenir sera notre priorité. Et est-ce que ça s'imposerait vraiment? On n'a pas reconstruit le mur de Berlin pour le plaisir. Donc, le devoir de mémoire, certes, mais il ne faut pas non plus en faire trop. Il faut aussi savoir tourner la page, aller de l'avant, en fait. C'était un peu ça aussi, la vision de Akin, en fait, qui ne recule pas alors qu'il est à Kaboul, donc loin des événements, mais qui ne recule pas devant un engagement, aller de l'avant. L'exposition qui avait eu lieu en 2001 à Barcelone était, encore dans le mode action, si je peux dire. Les choses étaient encore ouvertes. 20 ans plus tard, la vision est différente, en fait. C'est un constat d'état. Le panoramique de Pascal Convert date de 2016. Donc, c'est un état des lieux. Il a été invité donc sur un programme de l'ambassade de France à Kaboul. C'est un état des lieux. Mais encore une fois, si vous voyez le panoramique, si vous êtes sur place, vous voyez même la taille des niches. Ça paraît presque dérisoire par rapport au site, tellement il est fantastique, en fait. Le site existe avec les niches vides. Il tient de lui-même, si je puis dire. Je pense qu'il faut tenir compte du temps, des allées de l'histoire, mais pas non plus être piégé par une espèce d'auto-fascination de la destruction pour le plaisir. C'est ce qu'a joué la destruction tournée en boucle sur Al Jazeera. Et paradoxalement, ça a marché, si je puis dire, sur toutes les télévisions occidentales, dites occidentales. En Chine ou au Japon, même si le bouddhisme est très important, on est passé à autre chose. Donc même la fascination de la destruction laisse perplexe, à mon sens. Je pense malgré tout que l'événement valait la peine d'être noté. Ça permet de réfléchir à tout cela. Et encore une fois, en tenant compte de l'avenir, l'archéologie sert d'abord pour le futur.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Cet entretien a été réalisé par franceweinert.com.